divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Une émission préparée et présentée par Perry Willet. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver fidèlement chaque troisième dimanche de mois. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui pourrait paraître paradoxalement pas tout à fait contemporain, puisque nous allons parler de rites et de traditions. Et pour cela, je reçois Pascal Lardelier. Bonjour Pascal.
Bonjour Perry.
Alors Pascal Lardelier, vous êtes professeur à l'Université de Bourgogne à Dijon. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages d'inspiration anthropologique consacrés aux formes et fonctions des rites dans notre société occidentale. Et vous avez fait paraître sur ce thème un livre intitulé « Sur les traces du rite, de point l'institution rituelle de la société ». Et il faut dire que ce livre a déjà été traduit en anglais aux éditions américaines Wiley, mais aucun rapport de famille avec moi-même. Vous avez mené des enquêtes de terrain dans des lieux aussi différents et disparates que le Festival de Cannes, le GIGN et les Apple Store. Bref, votre exploration s'interroge plus largement les nouvelles formes de la ritualité, de la sacralité. Et dans notre vue interne de la Grande Loge de France, point de vue initiatique, vous avez écrit un article dont le titre est « Le rite, phare des traditions ».
Oui.
Alors évidemment, ma première question, c'est de quelle est votre définition du rite ?
Alors écoutez, pour définir effectivement le rite, d'abord stricto sensu, et pour être durkheimien, on va dire que le rite, c'est l'ensemble des règles qui régissent le rapport des hommes avec la chose sacrée, des hommes ou d'une communauté, bien évidemment. Et puis, si vous me permettez, on va faire un pas de côté, on va ouvrir un petit peu la focale ou le spectre.
Oui, allez-y.
Et dans mes travaux, j'ai coutume de dire que le rite, c'est une parenthèse sociale. C'est un espace-temps particulier qui va être institué par une communauté. On sait qu'on entre dans une autre dimension. On éteint son téléphone, on se racle la gorge, on sait que quelque chose va se passer. Alors, ce quelque chose, il est spectaculaire et théâtral. Il y a une esthétique qui est toujours propre au rite. Il y a toujours un décorum. Et puis, il y a bien évidemment un caractère normatif. Il y a des livres de rituels qui disent comment les choses doivent se dérouler ou des livres de protocole, par exemple en diplomatie. Et puis surtout, il y a une dimension symbolique très importante pour les participants du rite, puisque pendant ce moment particulier, très fortement investi symboliquement, j'y reviens, eh bien va se jouer quelque chose de l'ordre d'une dramaturgie véritablement. Alors on pense au rite religieux en première lecture, mais on peut bien évidemment, dans le cadre de cette émission, faire référence aussi au rite des sociétés initiatiques.
Mais est-ce que notre société, notre époque postmoderne, elle n'aurait pas oublié, ou tendance à oublier, les rites ?
Alors, c'est vrai que notre modernité occidentale, notamment, elle est un petit peu oublieuse, elle est un petit peu amnésique et elle est un petit peu ingrate, finalement, puisque vous vous rappelez de Monsieur Jourdain, le personnage du bourgeois gentilhomme qui passait sa vie à faire de la prose sans le savoir. Eh bien, toute chose égale par ailleurs, on pourrait dire que nous passons notre vie à passer dans des rites sans en avoir conscience ou en ayant plus conscience. Alors, effectivement, pour répondre à votre question, il y a les grands rites que l'on appelle d'ailleurs ordinairement des grands messes, hein, sans référence à la chrétienté en première lecture. Alors ça va être les grandes cérémonies religieuses, politiques, etc., où on sait qu'on est dans une séquence rituelle. Et puis à côté de ça, et c'est l'objet de ce que j'ai pu étudier, vous le citiez tout à l'heure, il y a tout un ensemble de nouveaux rites, de rites profanes, de fêtes ritualisées au cœur de notre modernité.
Du quotidien.
Ça va être, oui, des rites du quotidien. Alors ça va être par exemple des cérémonies médiatiques. Vous parliez du Festival de Cannes, que j'ai longuement étudié. Et puis, alors quelque chose de très intéressant, Perry, regardez les salutations. Eh bien, les salutations, tout ce jeu de civilité, tout ce jeu des rites d'interaction, eh bien, ce sont des rites à part entière. Et regardez comme nous avons été frustrés quand nous en avons été privés durant la séquence covidienne. Voilà. Donc, il y a des rites à tous les niveaux de la société, à tous les échelons. Certains disent leur nom et sont assumés comme des rites. Et puis d'autres, eh bien, sont des rites qui, effectivement, sont, à l'égal de la prose de Monsieur Jourdain, des rites qui ne sont plus assumés comme tels. Et pourtant, tout un ensemble de cérémonies familiales, amicales, associatives, politiques, institutionnelles, sont des rites à part entière. Et je crois qu'il faut, en anthropologue, et puis il faut, quand on est un petit peu sensible à la cause initiatique ou rituelle, il faut être effectivement conscient de cela. Nous sommes des êtres de chair et de sens, et nous sommes en permanence pris dans des rites qui nous englobent véritablement et nous font hommes avec les autres hommes et en face des autres.
Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire à la fin, parce que depuis le début, vous nous avez donné des exemples plutôt de rites, j'allais dire profanes, mais vous avez au début évoqué la notion de sacré, mais plus du tout dans les exemples que vous avez donnés. Où est la part de sacré dans le rite? Et alors, qu'est-ce que le sacré, finalement?
Oui, alors le rite, je le disais en ouverture du propos, c'est quelque chose qui va administrer le rapport au sacré. Alors le sacré, qu'est-ce que c'est? Vaste question. Vous avez 3 heures. Le sacré, en fait, c'est l'intuition ou la conscience d'une transcendance, dans un premier temps, de quelque chose qui nous englobe, quelque chose qui nous dépasse sans nous écraser. Et puis, bien évidemment, le sacré, c'est aussi la conscience ou l'adhésion à un principe d'organisation de l'univers, du cosmos, de nos destinées. C'était le grand horloger de Voltaire, c'est le grand architecte des francs-maçons. Voilà. Donc, le sacré, c'est ce principe d'organisation transcendant, bien évidemment. Alors, pour répondre à votre question, oui, il y a du sacré dans les grandes cérémonies qui vont faire référence à des valeurs, à des idéaux, à des mythes, à des légendes. Bon, tout ça, les francs-maçons le connaissent bien. Mais il y a de la sacralité dans énormément de rites qui, comme je disais tout à l'heure, ne disent plus leur nom. Un sociologue célèbre sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Erwin Goffman, nous dit même que dans les civilités, dans les salutations ordinaires, nous célébrons la face sacrée de l'autre. Et regardez comme nous sommes irrités quand quelqu'un devant nous tourne les talons, répond au téléphone ou change de sujet alors que nous lui prêtions attention. Nous respections sa face, nous respections sa dimension sacrée. Eh bien, chaque époque, comme le dit Durkheim, Émile Durkheim, je fais souvent référence à lui, nous dit « le sacré se pose là où il veut ». Eh bien, selon les époques, selon les cultures, il y a du sacré dans des stars de cinéma, dans des joueurs de foot ou dans des choses un petit peu plus officielles et un petit peu plus solennelles. Mais le sacré, c'est ce principe qui vient véritablement dans le rite et qui va permettre eh bien, de faire le lien entre ceux qui vont s'adonner au rite et pratiquer le rite, selon des règles imparties.
Mais quand vous dites « le sacré se pose là où il veut oui. » de Durkheim, mais ça voudrait dire que le sacré est créé uniquement par l'homme ou est-ce qu'il ne serait pas en fait un principe qui nous dépasse? Alors là, alors, les deux sont possibles ou sont contradictoires?
Alors Perry, je vais prolonger votre proposition. Vous dites « est-ce que le sacré est en l'homme ?» J'ai envie de dire que le sacré est entre nous.
Alors, pardonnez-moi, je disais en l'homme, mais je le crois, mais créé par l'homme.
Créé par l'homme, oui. Oui, alors, je serais tenté de dire que le sacré, il est entre nous. D'abord parce que le sacré, c'est un liant puissant qui va nous faire adhérer à des communautés, à des traditions, à des associations, à des communautés électives, dont la franc-maçonnerie encore me semble être tout à fait représentative. Et puis le sacré, il est entre nous parce qu'il va nous lier à un passé auquel il va nous rattacher. Et puis surtout, le sacré va possiblement nous lier à d'autres dimensions, à une cosmogonie. Par exemple, à un macrocosme auquel le temple maçonnique, me semble-t-il, va faire référence avec des tas de symboles, etc., etc. Donc le sacré a-t-il été créé par l'homme? Ce que je peux vous dire, et je suis définitivement durkheimien, décidément c'est ce que vont se dire les personnes qui nous écoutent, c'est que finalement, et je ne m'en tire pas par une pirouette, finalement, les communautés se célèbrent en célébrant leur dieu. Voilà. Et ça, c'est une hypothèse anthropologique que je trouve extrêmement féconde. C'est qu'à se réunir sous le sceau de l'intégrité de la communauté, de l'intégralité de la communauté, eh bien, c'est la communauté elle-même qui se célèbre en célébrant ses dieux. Alors, par qui Dieu a-t-il été créé? Par qui le sacré a-t-il été créé? Ça, c'est une autre question que je laisse les théologiens, sur lesquels je laisse les théologiens débattre, effectivement. Mais cette intuition anthropologique me semble assez féconde, finalement. La communauté se célèbre. Et c'est vrai que la loge, l'obédience, eh bien, à travers le jeu des tenues, des cérémonies, etc., va célébrer la fraternité, va célébrer les idéaux qui vont fédérer la franc-maçonnerie. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui renvoie à la fois au sacré et puis à ce lien qui unit véritablement les frères et les sœurs en loge et durant les cérémonies maçonniques.
J'ai lu dans un de vos livres, vous repreniez une citation de Régis Debray, vous dites « le sacré noue le nous ». Et c'est qui le nous ?
Alors, le « nous », d'abord, vous apportez une belle conclusion avec cette magnifique citation à ce que je viens de dire là, parce que le rite, effectivement, il rassemble une communauté. Il est un liant puissant, véritablement. Et puis, le « nous », c'est la communauté. Alors, ça va être la communauté intemporelle et universelle de la franc-maçonnerie, pour ce qui intéresse cette émission. Et puis, ça peut être la loge, à un niveau plus micro, véritablement. Et donc, c'est vrai que le rite, il va permettre d'entrer dans la boucle, d'appartenir et puis de se connecter, je le disais tout à l'heure, à une autre dimension, le temps de la tenue. On va switcher, si vous me permettez l'expression, dans une autre dimension, dans un espace-temps sacré, ou sacralisé, et là on va vivre quelque chose qui va être atemporel. Donc on va faire des cérémonies, on va se livrer à tout un ensemble de rites, on va respecter des rituels, on va invoquer des valeurs et des idéaux, et donc ça c'est ce qui fait que finalement la maçonnerie, me semble-t-il, est une spiritualité vivante. Et c'est dans le rite, dans ce « nous » qui est noué véritablement, que la maçonnerie va trouver sa pleine efficacité et sa sève, si je puis dire. Alors de même, vous me tendez une perche avec le « nous ». Qu'est-ce que le « nous » ?
Oui.
Eh bien le « nous », possiblement, c'est la communauté. Bien sûr, c'est la communauté de la loge ou, à échelle plus large, c'est la communauté de la franc-maçonnerie.
Mais la communauté et le communautarisme, c'est un mot à la mode, c'est pas forcément bonne presse, si j'ose dire. Les communautés peuvent être considérées comme un repli sur soi, puisque vous évoquez la loge. C'est pas le cas de la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si je vais convaincre tous nos auditeurs. Alors, mais comment vous pourriez ouvrir justement cette idée que l'on a de la communauté ?
Alors c'est vrai que la communauté, elle a presque mauvaise presse, puisque avec le suffixe isme. On va tout de suite vers le communautarisme, donc vers ce qu'on peut appeler l'archipélisation de la société. Et ça pose des questions, ça pose même des problèmes au corps social. Et c'est vrai que la communauté, pour autant, donc il faut dédramatiser un peu tout ça, dans un premier temps, c'est l'un des principes élémentaires de la sociologie et de la sociabilité. On appartient à des communautés et ces communautés sont des communautés de cœur, de vie, de sang, de destin, etc. etc. Et puis, à certains égards, je crois que la communauté, eh bien, elle est garante et dépositaire d'une tradition, et surtout elle est responsable d'une transmission que l'on va appeler l'initiation, pour le coup. Mais le rite, il contient des éléments de tradition et que l'on va effectivement distiller, instiller et transmettre justement à la communauté rassemblée durant le rite. Alors, je pense, il me semble, que la communauté de la loge, la communauté maçonnique, est tout sauf une secte. Elle est ouverte.
Oui, merci de le rappeler.
Oui, c'est une évidence, bien évidemment.
Non, mais pas pour tout le monde.
Oui, non, mais en tout cas, c'est une communauté ouverte. Mmh. On a coutume de dire que c'est plus difficile d'y entrer que d'en sortir, et c'est exactement l'inverse de la secte, pour le coup. Voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, eh bien, c'est que elle est ouverte sur son temps, me semble-t-il. Elle est ouverte sur les valeurs d'une époque, sur les grandes questions et les grands débats d'une époque, soucieuse néanmoins, d'être garante d'une tradition. Et cette tradition, bien évidemment, on ne peut pas y toucher trop fréquemment, sauf à effectivement poser des problèmes à l'édifice, qui est solide et fragile à la fois.
Donc les communautés, c'est plutôt un enracinement, pardon, mais qui nous ouvre vers l'extérieur. C'est pas fermé.
La communauté,
c'est elle qui fait vivre la tradition.
Elle est fermée sur la cérémonie, bien évidemment, mais elle est ouverte, répétais-je, sur l'époque, sur d'autres traditions initiatiques. Elle est en dialogue. Mmh. Elle en dialogue, et je pense que cette émission en est l'exemple tout à fait représentatif. Elle est ouverte sur l'extérieur, sur la société civile, et elle est à l'écoute, justement, de tous ceux qui ont une quête, me semble-t-il, au sens large du terme, une quête de spiritualité, une quête d'enracinement. Et c'est vrai que dans une époque qui a consacré l'immédiateté, l'instantanéité, le hors-sol et le tout-écran, être enraciné dans une tradition, dans une pratique rituelle, c'est quelque chose qui me semble être très important. Alors effectivement, la communauté me semble avoir besoin de racines, et les émissions de cette matinée, je pense qu'elles en sont tout à fait garantes. Et puis, elle est porteuse d'une sève aussi. Et la sève, si vous me permettez de filer la métaphore de la racine, eh bien, elle monte et elle monte vers la lumière.
Très bien. Merci beaucoup, cher Pascal. Je rappelle d'ailleurs que la définition de notre obédience, la Grande Loge de France, c'est une démarche de tradition au cœur des enjeux contemporains.
Oui,
donc,
oui, oui.
C'est tout sauf un repli sur soi. Merci beaucoup. Alors, il me reste évidemment à convier nos auditeurs à aller sur le site de la Grande Loge de France pour regarder tous les numéros de Point de vue initiatique. Et vous pouvez vous y abonner. Et puis, parler d'un ouvrage, le dernier ouvrage écrit par Alain Grézel, l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, et Michel Guérard, qui était grand expert de la Grande Loge de France. Cet ouvrage s'appelle « L'initiation au premier degré ». C'est ouvert à tout le monde et ça va ouvrir les yeux de ceux qui ne nous connaissent pas et pour les maçons, leur rappeler les souvenirs de leur premier pas dans l'initiation, dans ce qu'on appelle le cabinet de réflexion. À lire, c'est aux éditions Numéri Livre, éditions qui produisent toujours des livres très intéressants pour le grand public. Merci à vous, cher
beaucoup,
Pascal,
cher Péry.
De vos éclairages. Merci à Luc-Jean Reynaud à la réalisation. Merci à Grégory Vallon à la technique et puis à Claire Poinsignon, attachée de production. Très bon dimanche à vous tous et rendez-vous le 21 mai pour une nouvelle émission. À très bientôt, bon dimanche. Thank you.